Vous écoutez
RMC.
RMC, les grandes gueules, les GG et vous.
On va reparler des enfants qui sont perdus sur les plages parce que les parents passent trop de temps sur leur portable. Ce n'est pas nous qui le disions, ce sont des chiffres qui ont été donnés par la police du côté de Marseille notamment. Alors encore la faute du portable, c'était un élément de discussion, une discussion que nous avions ce matin. Et c'est Étienne qui a fait réagir Jérémy. On écoute Étienne d'abord.
Sur la question des véhicules et que c'est pas
seul... le portable au volant.
Ouais, c'est pas que par la contravention, etc. Je pense que le message est passé, c'est-à-dire la prise de conscience. Je pense qu'il y a là une prise de conscience que les gens doivent prendre parce que finalement, on n'a pas conscience du danger que ça représente, cette perte d'attention à l'enfant. Et comme on n'a pas conscience, c'est pas volontairement qu'on regarde son téléphone quand on est au volant de sa bagnole. Et je pense qu'il y a des choses comme ça qu'il faut dire. Comme on dit, faites gaffe quand il y a un échafaudage, faites attention de ne pas recevoir une pierre sur la tête. Et je pense qu'il y a des choses qui vont s'inscrire dans notre inconscient collectif.
Jérémy, bonjour.
Oui, bonjour, Jérémy Gironde, le plombier fidèle au GG.
C'est vrai,
bonjour,
allez-y.
Mesdames.
Étienne vous écoute.
Bonjour mesdames, je voulais dire
bonjour.
Avant, pour être poli. Bonjour messieurs,
merci.
Bonjour Étienne.
Salut.
Je voulais justement vous rattraper au niveau de la voiture et du téléphone.
Oui.
Donc c'était vraiment à la fin du propos. La voiture, elle n'a pas changé. Hein. C'est toujours un moteur à combustion. Il y a de l'essence, il y a de l'air, ça pète, on roule. Depuis 1901, je crois que vous êtes un peu dans l'histoire. La sécurité, vous allez me dire, oui, on a mis un peu plus de sécurité dans les voitures. Par contre, on met des tablettes. On met des tablettes et des appareils qui permettent d'avoir le téléphone sur la tablette de la voiture.
Mmh.
Voilà. Donc, quand on est à la plage, et quand vous avez dit... ça c'est pareil, je voulais faire une petite aparté, mais quand vous avez dit au départ vous inquiétez pas, les enfants on les perd, c'est pas grave parce qu'on les retrouve, moi j'aurais voulu savoir combien d'enfants on perd et qu'on retrouve, parce que vous avez dit entre 3 et 10 secondes on meurt noyé. Moi je suis en Gironde, je suis à 20 km de l'océan Atlantique.
C'est vrai.
Vous perdez un enfant dans les baïnes ou dans les vagues, ouais, il faut 3 à 10 secondes pour qu'il meure noyé.
Ça suffit. Oui, bien
donc
sûr.
À mon avis, va falloir revoir un peu vos positions.
Alors, Étienne.
Monsieur Liebig.
Alors, réponse à Jérémy.
Oui, j'ai pas vraiment compris la question, mais.
C'est pas une question, c'est une interpellation.
Oui, vous m'interpellez.
Voilà.
Écoutez, bien sûr, si on perd son enfant dans les baïnes, oui, c'est emmerdant. Non,
oui,
moi,
on
nous donnait l'exemple là. Non,
oui.
Sur les plages.
Vous
sur
avez
les...
dit, c'est pas grave.
Non,
on
non,
les retrouve.
Sur le... Oui, en général, en tout cas, là, tous ceux qu'on
oui,
a.
En
tous
général,
ceux... Tous ceux
mais
qui...
c'est pas ce que vous avez dit au départ. Tous le ceux... mot général, il est pas.
Non, c'est-à-dire que les 3-4 secondes qu'on a en voiture, c'est pas les 3-4 secondes, si tu veux, avec un enfant.
Les
3-4
secondes en voiture, on tue quelqu'un et on se tue soi-même. Il n'y a rien de pire que les 3-4 secondes en voiture à 110 km/h. C'est un véritable crime, c'est un véritable meurtre. Et effectivement, sur les 343 enfants là perdus, je crois, et tous ont été retrouvés. Il n'y en a aucun qui est mort noyé, qui a été enlevé et qu'on n'a pas retrouvé. Heureusement. Sur la plage, effectivement, c'est très courant quand même de perdre des enfants et on les retrouve toujours. Bien sûr qu'il y a des cas dramatiques d'enfants qui se noient, mais bon, on va pas tout fixer sur un cas dramatique qui peut arriver, on est d'accord. De toute façon, on est d'accord sur une chose, c'est grave.
Et qu'il va falloir changer, toi tu dis.
Moi je dis.
La société doit changer par rapport aux nouveaux outils technologiques.
Que ce soit en voiture ou que ce soit sur la plage, je pense que ces messages d'alerte qui sont en train de prendre, qui sont nouveaux, vont avoir un impact sur la manière de penser des gens et que peut-être dans 5 ans, les gens n'utiliseront plus leur téléphone portable, ni sur la plage, ni en voiture, parce que et pas que parce qu'il y aura des contraventions, mais aussi parce qu'il y aura une prise de conscience de la dangerosité du truc.
Ouais.
Et c'est pour ça que je dis qu'il y a de l'apprentissage à avoir et que c'est un nouveau matériau qui nous arrive du ciel, et ben il va falloir
le
traiter.
Du coup, ça me fait penser, si tu extrapoles, à une société où tu auras les haut-parleurs qui résonneront sur la plage en disant « Attention, lâchez vos téléphones portables, voilà, regardez vos enfants. »
Regardez la rue.
Et dans la rue, regardez dans la rue où tout le monde regarde son téléphone, les accidents
bien
se
sûr.
Multiplient.
Non, mais
et tu sais, les haut-parleurs, voilà.
Essuyez-vous.
Attention, n'oubliez pas d'être vigilant.
Si c'est ça, démissionne de notre époque.
C'est merci Jérémy.
C'est pragmatique.
Dans un instant, suite du GG, on reparlera enfant sur la plage avec Joël Dagosséry.
Accusé de négligence.
Et Sébastien. À tout de suite.
Vaut-il mieux se faire craindre ou se faire respecter?
RMC.
Nous sommes de retour.
Pour jouer en mauvais tour.
Afin de préserver le monde de la dévastation.
Afin de rallier tous les peuples à notre nation.
9h midi.
Afin d'écraser l'amour et la vérité.
Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée.
Alain Marshall.
Et Houston, on a un problème.
Vous êtes des grands malades.
Vous massacrerons jusqu'au dernier.
On peut discuter, peut-être.
On peut ni les acheter, ni les persécuter, ni les raisonner.
Les grandes gueules.
Quand on a du talent, on se doit d'en tirer profit. Oui, oui, oui.
Les GG, les grandes gueules, RMC, RMC Story, Étienne Liebig, Fatima Hidbounoua, Joël Dagosséry, c'est Joël justement qui va être interpellé par Sébastien, toujours à propos de cette discussion, des enfants perdus sur la plage, encore la faute au portable, on réécoute Joël.
Alors là, je vais pas du tout être donneuse de leçons, parce que moi, je fais partie de ces mamans dont...
Ah, mais c'est bien de le reconnaître.
Ah oui, oui, non, mais moi, c'est
attention,
ma fille.
Mesdames et messieurs, un moment de vérité.
J'avais un moment de confession.
Et de franchise et de confession de
je
la part
du... Je dis confession.
Vas-y,
je fais partie de ces mamans dont les enfants, en tout cas ma fille me régule continuellement. Elle me dit... elle, apparemment, elle a une éducation au portable, puisque bon, elle en a pas, mais elle est beaucoup plus... éveillée sur ce sujet, puisque c'est elle tout le temps qui va me dire « Maman, là, c'est bon le téléphone. »
Sébastien, bonjour.
Sébastien, bonjour, retrouvez ta fille.
Bonjour,
allez-y, Sébastien. Joël vous écoute, alors.
Elle errait devant la
allez-y.
Juste, voilà, moi, j'ai été un peu... ça m'a fait un peu tiquer, ce genre de phrase, parce que moi, je suis père de famille et en garde alternée. Mm-hmm. J'amène régulièrement ma fille à la plage entre 15 jours et 3 semaines sur l'été. Et je vous entends dire que elle régule le fait que vous serviez du portable. Et moi, je me dis que ça peut un risque peut arriver très vite. Et quand je pars à la mer avec ma fille, la première des choses que je m'oblige à faire, c'est mettre le téléphone dans le sac. Mmh. Et ne plus m'en servir, tout simplement parce que j'ai la responsabilité de mon enfant. Et la première responsabilité d'un père, parce que moi je suis seul, c'est de surveiller son enfant et de le protéger. Et en étant sur le portable, même pour un tweet, pour n'importe quoi, je veux dire, il n'y a pas plus important qu'un enfant sur la plage, qu'on y est, et d'en profiter. Mmh. Et quand je vois les parents sur la plage qui passent 10, 20 minutes au portable à regarder Twitter, Face, peu importe, moi ça me fait mal parce que je vois des enfants qui sont seuls, ils peuvent se noyer, et c'est pas la responsabilité des sauveteurs de surveiller les enfants sur la plage. Mmh, voilà. Mmh. Alors c'était juste que ça m'a fait tiquer, je suis pas... Et ça m'a perturbé parce que ça arrive trop vite. Moi, je sais que j'ai cette crainte-là.
Ouais.
Quand c'est fait, après c'est trop tard.
Et alors, Sébastien, Joël vous répond.
Alors Sébastien, oui, quand je disais que... Pardon, j'ai oublié ça. Bon, je disais que ma fille me régulait. Je parlais pas forcément de la plage. D'ailleurs, sur la plage, je l'ai pas tant utilisé que ça. J'ai juste raconté un épisode où effectivement j'avais regardé mon portable et où j'étais restée un peu trop longtemps dessus et où je m'étais rendu compte. C'est plutôt à la maison. Voilà, quand je suis à la maison, elle va me dire maman le portable. C'est pas vraiment sur la plage. Mais après, je vous rejoins sur votre analyse de la situation. Effectivement, c'est à nous de surveiller nos enfants. Enfin, je vais pas vous dire ah non. Quoique ma fille, je l'ai quand même éduquée pour qu'elle se surveille elle-même. Non, je rigole, Sébastien. Je l'ai éduqué dans ce sens.
Allez-y, Sébastien.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, vous êtes aperçu que vous êtes resté trop longtemps sur le téléphone.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Du moment où on s'aperçoit de ça,
c'est trop
déjà
tard.
On a fait une erreur.
C'est vrai.
Une petite erreur, hein, mais ça peut coûter cher. Et à l'arrivée, si ça coûte cher, on peut se gâcher une vie, quoi.
Ouais. Oui, non, je suis d'accord.
Vous avez raison.
Voilà, j'ai rien contre vous, j'adore vos émissions. Changez rien, c'est super. Voilà,
merci Sébastien, je vous envoie un t-shirt DGG. À très bientôt pour de nouvelles discussions. En fait, Joël, quand elle va à la plage, elle dit aux voisins et puis au maître nageur sauveteur. Bon, alors, voilà, j'ai mon enfant, vous occupez de lui et non. Toi, tu t'occupes de toi. Et puis, non, moi, je suis sur mon portable.
Ah non, je lui montre, je lui dis regarde, tu vois le monsieur là-haut, c'est le sauveteur, c'est un problème.
Non,
tu l'appelles.
Au moment où tu te noies, essaie de lever le bras bien haut. Qu'il puisse te voir. On va reparler agriculture maintenant, puisqu'on avait fait grande gueule du jour. Daniel Cueff, le maire de Langouette en Ille-et-Vilaine, et qui a pris un arrêté municipal pour bannir l'épandage à 150 mètres de son habitat sur... L'épandage, là, des pesticides à 150 mètres des habitations dans sa commune. Et la préfecture, l'administration lui a dit, monsieur, c'est pas vos prérogatives. Or lui, ce qu'il veut, c'est faire régner l'ordre écologique sur sa commune. Ça a été une de nos discussions. On écoute Étienne et tu reprends la parole avec Jimmy, qui est agriculteur justement du côté d'Ille-et-Vilaine.
C'est un endroit très important, puisqu'aujourd'hui on a au moins deux villes, Vannes et Rennes, qui sont autosuffisants à 30 km autour de la ville, donc qui peuvent se permettre de vivre à tous les niveaux avec les produits locaux. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui se joue aujourd'hui, certainement que bientôt nous n'aurons plus d'haricots verts du Kenya, certainement, etc., et qu'on va se retourner vers sa propre production la plus proche possible du lieu de consommation.
Jimmy, bonjour.
Délicieux.
Bonjour.
Bonjour Jimmy. On parlait donc de la Bretagne et Étienne vous écoute, cher ami.
Oui, je parle même mieux que ça. Je suis agriculteur à Vignoc et à Langouette, justement, sur la commune du fameux monsieur qui parle beaucoup.
Donc vous connaissez bien l'histoire.
Ouais, donc déjà, je voulais parler à Étienne en lui disant que j'habite à 15 km de Rennes et heureusement, on ne vit plus en autarcie comme on pouvait vivre dans le passé. Heureusement, les Rennais et la périphérie a besoin des autres pays du monde et des autres régions de France pour vivre. Et nous aussi, on échange avec les autres régions et les autres pays du monde. Faut savoir que ce monsieur, enfin, faut venir au début. Mmh. Quand il a fait son arrêté dans sa petite commune de Langouette, il a pris le choix tout seul, sans même en faire part à son conseil municipal. Alors si ça, c'est aujourd'hui la démocratie, je ne pense pas. Faut aussi savoir que ce monsieur a fait le tour de la région Bretagne. Il s'est occupé du foncier, il s'est occupé de sa communauté de communes. Partout où il est passé, malheureusement, ils ne l'ont pas gardé. Il y a sans doute des raisons. Donc il a un petit peu un besoin d'exister dans notre région, mais aussi en France. Il a un ego mal placé sans doute. Donc tout démarre de là. Après,
il y a l'épandage des pesticides sur le fond, quand même. L'épandage à 150 mètres des habitations, quoi. Voilà.
Ça aussi, on peut en revenir. Moi, je suis agriculteur en conventionnel. Quand nous faisons des épandages, on le fait. Il y a des raisons en face. On le fait soit pour protéger, entre guillemets, vacciner nos cultures, ou alors suite à une attaque sur nos cultures. Faut aussi un peu faire le parallèle avec les hommes. Quand nous sommes malades, malheureusement, nous soignons. Nous prenons des médicaments. Il faut savoir que là, la recherche qui est faite quand les gens font pipi pour trouver du glyphosate, c'est pas le glyphosate qu'ils recherchent, c'est la molécule Pampa. Et la molécule, elle est présente dans plein d'autres choses que le glyphosate. Hein. Faut aussi le savoir. Moi, je suis très heureux quand je vois des gens malades, qu'on puisse les soigner et qu'on leur trouve des médicaments pour les soigner. C'est exactement la même chose.
Et donc, vous avez besoin de cultiver des importations et vous avez besoin de ces produits phytosanitaires aussi, c'est ce
qu'il
dit. Alors,
d'abord, sur la question de l'autonomie de Vannes et Rennes, il y a eu des tas et Besançon, je crois, il y a eu des tas de papiers sur ce sujet. Il ne s'agit pas de dire que, évidemment, que la ville de Rennes, les gens ne jouent pas uniquement à manger ce qu'il y a autour de la ville de Rennes. C'était une image qui a servi de modèle et de modélisation. Et aujourd'hui, à Vannes, c'est la même chose sur le fait qu'on n'est pas obligé d'importer de tous les pays du monde pour vivre. Évidemment que c'est un modèle, c'est pas la réalité, qu'il y a toujours des gens qui vont manger des bananes qui viennent des États-Unis. La question, c'est de se dire effectivement, supprimant les bananes qui viennent des États-Unis, on pourrait vivre. Et c'est pour montrer qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui se réfléchit et la France n'est pas à la pointe du tout là-dessus, mais il y a des tas de pays, y compris l'Angleterre, etc., qui sont, l'Italie bien sûr, où ils ont une consommation des produits locaux. Et c'est pour dire aux gens, plutôt que d'acheter des produits qui viennent de pays étrangers, achetez d'abord les produits de votre pays et ensuite les produits les plus proches de chez vous. Ça fait vivre en plus les producteurs du coin. Donc
Jimmy,
c'est complètement...
Là-dessus, Étienne, je suis d'accord.
Ben voilà, c'est tout ce que ça veut dire.
Oui, mais il y a autre chose. Vous en avez parlé tout à l'heure. Comment les gens, moi aussi, je fais de la vente directe, par exemple. Alors, quand les gens me rencontrent, tout le monde est pour, tout le monde veut, mais quand il faut faire l'acte d'achat, il n'y a plus personne. Il faut savoir que nous, les agriculteurs, on produit ce que l'on nous achète. Alors aujourd'hui, les gens qui parlent veulent qu'on produise du bio, sauf que derrière, il y a plein de filières en bio qui sont bouchées.
C'est pas tout à fait vrai, puisque par exemple, sur les questions d'élevage, puisque vous êtes breton.
Les filières. Aujourd'hui, la filière laitière, par exemple, en Bretagne, la filière laitière bio, ils ne veulent plus aucun agriculteur. On peut aussi parler des œufs bio. Aujourd'hui, les œufs bio, une partie des œufs vont à la casse pour faire des shampoings. Alors si c'est ça que l'on veut comme production,
écoutez,
le transport.
En tout cas, ce qui se passe en Bretagne, c'est tout de même que l'exigence des habitants et peut-être aussi des néo-ruraux arrivés ayant évolué sur les produits, ça a contraint par exemple les éleveurs à changer, un certain nombre d'éleveurs à changer les modes de production, que ce soit pour le cochon ou que ce soit pour les poules et les canards. Donc c'est quand même qu'il y a quelque chose qui se joue en ce moment, et plutôt que de vous arc-bouter, moi je trouve que vous êtes très arc-bouté sur le fait du produit phytosanitaire, etc., etc. Je disais tout à l'heure qu'il y a quand même, par exemple, en France, on voit une différence entre la façon de produire du vin dans certaines régions et dans d'autres, où il y a quand même des vignerons qui ont pris la décision d'herber par exemple leurs vignes, de produire différemment du vin plutôt que de systématiquement mettre des produits phytosanitaires. C'est donc que c'est aussi possible d'y réfléchir. Je dis pas que c'est le miracle, je dis que c'est possible d'y réfléchir quand même. On a le droit de penser ensemble, on n'est pas obligé de se positionner en ennemi.
Merci Jimmy d'avoir été avec nous. C'est vous qui aurez conclu donc les GG aujourd'hui.